C'est Mon OM à moi, avec Émilie Fargier sur Radio Star.
Bonjour et bienvenue dans Mon OM à moi. Aujourd'hui, je reçois un ancien joueur de l'OM qui se fait rare dans les médias, Patrick Blondeau. Bonjour Patrick.
Salut Émilie.
Ravi de t'avoir. Alors, on va parler de ta carrière, mais tout d'abord, on va parler de l'actu de l'OM. Tu vis aujourd'hui en Italie. Est-ce que tu suis toujours l'OM ?
Évidemment. Je suis l'Olympique de Marseille parce que je suis né ici et parce que toute ma famille, dès qu'il y a à la télévision un match sur Marseille de championnat, même contre les petites équipes ou un champion de ligue, c'est la priorité, donc évidemment, je regarde. En Italie, je suis un peu mitigé, puisque mon autre famille regarde la Juventus, puisque j'habite à Turin. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est mon petit garçon, Ayrton, qui a 14 ans. Et ça, je pense, ça arrive souvent dans les familles. Quand il y a une équipe qui gagne pendant quelques années, je me rappelle mes neveux, il y a 10 ans de ça, il suivait Guillon, parce que Guillon ramenait beaucoup de stars dans l'équipe. Et là, mon fils Ayrton...
Il aime le PSG.
Lui, c'est le Paris Saint-Germain.
Oh ouais. Non.
Lui, c'est... voilà. Donc, je te dis pas le stress. Alors, je comprends à son âge qu'on a envie de voir toutes les stars, puisque c'est vrai que Neymar, Mbappé, Messi, si on avait ça à Marseille, on n'irait même plus à l'école, on n'irait plus travailler, on irait les voir s'entraîner. Donc, il faut le comprendre. Mais sa deuxième équipe, c'est Marseille.
Est-ce que tu es emballé par le début de saison de l'OM en championnat ?
Alors oui, j'étais très emballé depuis le début, parce que je pense... Alors j'avais un point d'interrogation sur le coach qui m'avait l'air très dur. Parfois, tu sais, les entraîneurs qui arrivent à Marseille, qui veulent de suite donner leur façon de travailler qu'ils ont appris ailleurs. Mais Marseille est une ville et un club difficile à gérer. Et puis, j'ai vu qu'il est arrivé à gérer Payet en le mettant sur le banc, à gérer 2-3 opportunités. Donc j'étais assez enthousiaste. Même dans le jeu, la preuve, ils sont restés dans les deux premiers pendant, jusqu'à hier. C'est en Champions League où j'ai été déçu, parce qu'en Champions League, on en fait vraiment un principe, mais depuis l'ère Tacchi, en Champions League, on a peut-être chaque fois, on s'est dit, c'est l'anime, on va réussir à faire quelque chose de bien. Et j'ai été étonné sur les deux matchs, ils ne sont pas rentrés sur le terrain pour gagner un match de Champions League, ils sont rentrés comme s'ils étaient en championnat. Et il faut savoir quelle est la différence entre les deux.
Est-ce que tu crois, du coup, toujours à une qualif pour les huitièmes ? Ça s'est mal barré, quand même.
Alors, ça va être très compliqué, sauf si Tudor, le coach et certains cadres vont vraiment se poser pour se dire, les gars, si on continue comme ça, c'est pas comme ça qu'on va ramener une victoire. Il y a le potentiel, voilà. S'il n'y avait pas le potentiel, comme il y avait deux saisons de ça en arrière, où on avait perdu, je crois, 6 matchs sur 6, là, c'était différent. Là, je sens qu'il y a quelque chose, mais malheureusement, sur les deux matchs, je dis bien sur les deux matchs, il n'y a pas eu ce qu'il fallait. Il faut y croire, et en plus, tu sais bien qu'à Marseille, avec un supporter qui sera plus unique, c'est toujours une arme de plus. Donc, il suffirait que le prochain match, il démarre très bien et tout s'emballe, et on pourrait nous gagner peut-être les 3-4-0. Mais j'ai quand même ce petit point d'interrogation que je n'ai pas en championnat. En championnat, je les vois finir dans les 3 premiers. Mais en Champions League, là, j'ai eu, c'est pas sur le premier match, c'est sur le second match qui m'a fait peur.
Quels sont les joueurs qui te plaisent cette année ?
Alors déjà, il y a un joueur qui leur amène un peu le feu, c'est Nuno Tavares. Il me fait penser à Camara quand il joue avec nous à l'Olympique de Marseille, rappelle-toi. Quand il rentrait, il mettait le feu au stade. Tu avais un Dugarry très technique, mais très sobre, Ravani pareil. Alors que Camara rentrait, tu savais qu'il allait avoir des occasions, qu'il allait avoir de la folie. Et lui, c'était un joueur qui amène beaucoup pour cette équipe. Après, la star... C'est lui que, indéniablement, quand on le regarde jouer, il a quelque chose au-dessus, c'est Sanchez. Ça, c'est la recrue. Donc, au départ, évidemment, on s'est dit, l'âge, peut-être que c'est la fin. Ben, il est en train de prouver que non. Il marque, il sait faire marquer. Et quand il a le ballon, il ne fait jamais n'importe quoi. Ben, là, c'est vraiment la classe au-dessus. C'est bizarre qu'ils n'ont pas réussi en championnat. Je reviens sur ça parce que l'équipe m'a l'air assez bien.
Alors, on va faire un petit bond dans le passé. C'est le moment de revenir sur ta carrière. Je commence par le tout début. Est-ce que tu as toujours eu envie de jouer au foot ? Est-ce que c'était un rêve de gosse ?
Alors oui, quand tu viens du quartier populaire, à l'époque, il n'y avait pas le rap, il n'y avait pas le basketball comme aujourd'hui. Dans la rue, il n'y avait que le football. Donc, évidemment, c'était un rêve. Mais personnellement, comme j'ai un frère qui a un an de moins que moi, à chaque fois qu'un club venait me chercher, donc c'était Nantes le premier, quand j'avais 14 ans, j'ai refusé. Je parle qui sont venus me recruter professionnels. Hein. Vous savez, quand tu as 14-15 ans, on vient, on te bloque, et comme ça, tu es sûr de signer pro chez eux. Et je refusais. J'ai eu un jour un coéquipier qui s'appelle Sarah Boubacar, qui a joué à l'OM, dans le grand OM, devant le Marius Trésor. Et là, il me disait, Patrick, il ne faut plus que tu refuses. Le football, c'est un travail, ce n'est plus un jeu. Là, jusqu'à maintenant, tu joues, tu fais partie des meilleurs jeunes. Moi, j'arrive de l'OM, des meilleurs jeunes encore plus forts que ceux qui sont à l'OM, alors que je joue à Martigues. Et là, maintenant, il faut vraiment que tu ailles dans un club très professionnel. Martigues, c'est un tremplin pour toi. Alors, j'étais titulaire en B2, avec deux, à l'époque, deux super joueurs, Benarbia, Donzar Boubacar, Hervé Flack, qui était prêté par l'OM, Hervé Bade, qui était prêté aussi par l'OM. Bon, il y avait vraiment de bons joueurs. Et Monaco ont mis la pression sur Martigues. Tu vois bien que c'est pour répondre à ta question, c'est que je n'étais pas non plus très demandeur d'être rapidement professionnel. Mm-hmm. J'avais mon temps, peut-être parce que j'étais sûr de moi. Et Monaco, au bout de la deuxième année, ils ont dit à Martigues, c'est très simple, ou Patrick est signé cette année, ou sinon on arrête le partenariat. Alors j'ai été obligé d'y aller, j'imagine. Mm-hmm. Et tant mieux, parce que ça a été le début de ma carrière et je suis devenu de suite titulaire. J'ai remplacé Amoros. Et de là, ma vraie carrière, elle est partie. Et puis, j'étais Monaco. Je suis resté 9 ans. Je n'ai jamais été prêté. J'ai été vendu 9 ans après. Donc, j'ai croisé dans ma carrière pendant ces 9 ans de sacrés joueurs.
Comment s'est passée ton arrivée à l'OM ?
Mon arrivée à l'OM a été très compliquée parce que quand tout le monde a su que Monaco pouvait me vendre, il y a plein de clubs qui sont venus me chercher, dont Bernard Tapie aussi. Malheureusement, Monaco a dit qu'il n'accepterait aucun club français. Voilà. Si Patrick quitte, j'étais sélectionnable, c'était ma troisième sélection. À partir, il faut partir à l'étranger. Et j'avais deux clubs qui ont mis papier sur table, c'était l'Inter de Milan, où il y avait Djorkaeff qui venait d'arriver, et Kefin Wesley. Moi, j'avais des agents que je ne connaissais pas très bien que ça. J'ai signé dans les deux clubs, j'ai fait une connerie, ça a été une faute très grave. Et je ne sais pas comment ça a tourné, retourné. Sheffield m'ont fait beaucoup plus d'offres, donc ce n'était pas le club par lui-même qui était, bien entendu, l'Inter de Milan, c'est l'Inter de Milan, c'était l'Inter de Milan de Ronaldo, tu imagines. Et je ne sais pas comment j'ai atterri à Sheffield. Donc, je suis resté 6 mois, je n'en pouvais plus. J'ai perdu l'équipe de France à cause de ça, puisque le club de Sheffield n'est pas aussi valorisant que celui de l'Inter. Surtout qu'Aimé Jacquet m'avait demandé de rester encore une année à Monaco, parce que j'étais devenu un peu le capitaine, un peu le joueur emblématique de Monaco. C'était ma 9e année et j'avais été élu meilleur défenseur français. Donc, j'ai fait cette bêtise. Du coup, pour la rattraper, il y a Bordeaux qui m'ont racheté. Et Bordeaux se sont mis d'accord avec l'OM que l'année d'après, ils me vendaient à Marseille avec Victor Lucien. Donc en fait, j'ai fait 6 mois à Bordeaux et 3 ans à l'Olympique de Marseille. Voilà comment je suis arrivé.
Tu es né à Marseille, tu as grandi à Marseille. Est-ce que l'OM, c'était un petit peu le passage obligé ?
Ah oui, oui, oui. Non, je n'aurais pas pu faire une carrière sans avoir touché la pelouse du Vélodrome, sans avoir connu et vu comment les supporters sont derrière vous quand ça va bien. Même quand ça va mal, moi j'aime ça. J'aime la pression, j'aime quand c'est dur. Et je crois même que parfois, je crois que certains supporters un jour qui m'ont dit « Tu sais Patrick, la différence qu'il y a entre toi et les autres, parce que c'est pas toi qui marque des buts, c'est pas toi qui fais gagner l'OM, tu empêches les équipes adverses qui gagnent. Mais c'est que quand c'est chaud, tu es toujours là, tu es toujours présent. » Voilà, ça c'était mon trait de mon caractère. Quand je rentrais au Vélodrome, alors parfois il y en a qui ont exagéré sur moi, parce que moi, je fais très peu d'interviews. Mais c'est vrai que quand je rentrais à partir du tunnel, j'étais un gladiateur. J'avais plus d'amis. Il y avait mon équipe et moi qui la représentais capitaine. Puis, il y avait une pression qui était permanente sous le tunnel et ça commençait comme ça. Alors après, on a dérivé sur les gifles de Blondeau, on a dérivé sur plein de choses, vrai ou faux. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que sous le tunnel, ça a commencé et l'équipe adverse, ils savaient qu'il fallait se tenir. Voilà. Alors pourquoi je dis ça ? C'est parce que moi, 10 ans avant, quand je jouais à Monaco, j'étais très jeune, les Mozart, les Basile Poli, les Casoni, tous ces joueurs-là, c'était la même chose. Tapie leur avait annoncé, leur avait prévu, voilà, c'est le match se gagne sous le tunnel. Voilà. C'est à partir de là, il n'y a plus de bise, on parle à l'oreille, on parle comme ils font tous. Voilà, c'est terminé. Après, à la fin du match, vous vous embrassez si vous en avez envie. Mais en tout cas, à partir de là, il n'y a plus d'amis. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant 9 ans à l'OM. Voilà. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs adverses qui ont été choqués parce qu'ils me connaissaient à l'extérieur. Et je leur serrais limite la main sans les regarder. Et je leur faisais passer un message. Voilà, tu restes à ta place, tu vas essayer de faire ton match. Mm-hmm. Et surtout, n'en fais pas trop parce que ça va mal se passer. Voilà. Et c'est un truc, voilà, c'est quelque chose qui sait. 3 ans, c'est beaucoup. Ce n'est pas un match. Sur 3 ans, donc, ça fait le bruit de tous les stades. C'est pour ça qu'après, on a mis la caméra. On a mis les caméras. Ça, j'en ai tellement entendu sur moi. J'en ai plus ri qu'autre chose. Alors, parfois, ça a dû faire de la peine à mes parents. Après, ma fille, Kylian, elle est née. Elle aussi, quand elle est à l'école, on l'utilisait. oh, ton papa, il paraît qu'il met les gifles sur les tunnels. Bon, on a tout entendu de choses. Alors, écoute, j'ai jamais trop eu envie d'en parler. J'ai jamais trop eu envie de dire c'est vrai, c'est pas vrai. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait pour mon club et pour mon maillot.
Quel est ton plus beau souvenir à l'OM en tant que joueur ou en tant que supporter même?
Alors, il y en a eu des beaux souvenirs. C'est gagner au Vélodrome contre Manchester. C'était le grand Manchester. Voilà, et là c'était un vrai match de Champions League puisque Manchester était au-dessus de nous. Quand Galas a marqué ce but victorieux et qu'on s'est dit ça y est, on est en finale, ça c'était magnifique. Le stade, quand tu as des joies aussi fortes et que tu puisses les partager avec tes supporters, avec ta famille, avec tes dirigeants, ça c'est très fort. Alors les choses moins fortes, c'est d'avoir perdu le titre alors que Bordeaux jouait contre le Paris Saint-Germain et non jouait contre Nantes. C'était nous. C'était signé que ça allait être, on allait terminer pardon, premier. Mm-hmm. Malheureusement, il y a eu un arrangement entre les deux clubs. Ça s'est su plus tard, mais vu que ça vient du Paris Saint-Germain et de Bordeaux, ben, ça s'est éteint. On a rien fait pour en parler, parce que si à l'inverse, c'était l'OM, je ne te dis pas, on aurait dit qu'il y a eu tricherie, etc. etc. Mm-hmm. Alors après, les partages, j'ai tellement d'histoires rencontrées. Par exemple, Bologne, l'affaire Bologne, où il y a une bagarre générale sur le stade, on est tous unis. On est tous unis, alors qu'on a on a la police qui nous charge à nous et pas à eux, alors que c'est eux qui nous ont provoqués, c'est eux qui ont frappé Luxembourg en premier. Et là, c'est des moments comme ça où on avait une vraie équipe avec un coach Roland Courbis qui était là. Et puis, je te répète, Marseille, c'est une passion. Marseille, tu vis 24/24 avec l'OM, en fait. Parce qu'en tant que Marseillais, quand moi j'allais chez le boucher ou le boulanger ou au casino faire deux courses, mm-hmm. on te parle du match qui vient de se passer et du prochain match. Donc, en fait, tu leur appartiens et tu es... alors que tu ne connais pas ça ailleurs. J'ai joué à Londres, tu fais des courses, on ne parle pas de football. Il y a l'euphorie une heure avant le match, pendant et après c'est fini. Marseille, c'est spécial. Il faut avoir joué à Marseille pour comprendre. Pour ça que pas tout le monde, je dis souvent, si tu n'es pas assez costaud, tu ne peux pas jouer à l'OM. En tout cas, tu ne peux pas rester 2-3 ans.
Tu as joué pour le retour de Tapie à l'OM. Est-ce que tu t'entendais bien avec lui?
Alors, Bernard est une réussite. Il faut, dans sa carrière de footballeur, c'est comme Berlusconi, il faut les avoir rencontrés. C'est très important parce qu'ils ont une façon de faire. C'est des compétiteurs ornés. De partout, ils passent, ils gagnent. Alors, évidemment, les gens petits vont dire « Oui, ils gagnent en trichant ». Non, il n'y a pas que ça. Peut-être, parce que dans le sport, il y a toujours la place où on peut essayer de gratter quelque chose, mais il avait sa présence, son savoir-faire. Un jour, avec Dimeco, on en parlait, on disait, mais t'imagines que quand il fait l'équipe au tableau, il la faisait lui, l'équipe au tableau souvent, il la faisait peut-être meilleur que le coach. C'est-à-dire, il avait vu l'adversaire, à mon avis, il avait dû téléphoner à 2 ou 3 entraîneurs, ce n'est pas les siens, hein, les connaissances, en disant comment tu jouerais toi contre telle équipe. Et évidemment, l'entraîneur à l'époque, j'invente Beckenbauer, Roland Courbis, je ne sais pas lesquels il avait au téléphone, moi je jouerais comme ça. Mm-hmm. Et le jour J, avant le match, il nous appelait, le coach le faisait asseoir, le coach, c'est beau quand même. Et là, il disait voilà les gars, comment on va jouer. On va jouer de cette façon, si on prend un but, on joue comme ça, toi tu vas jouer comme ça. C'était impressionnant parce que ce qu'il disait, c'était vrai. Et puis, le stade l'aimait tellement, c'est fou. Tapie, c'était Tapie. Et puis Tapie, il a amené tout ce qui manquait à Marseille. Ces feux d'artifice après les matchs, les familles réunies. On n'allait pas, moi je me rappelle, j'allais au stade avec mon papa. Il m'a mis, une fois c'était moi, une fois c'était mon petit frère. Et quand Tapie est venu, on partait tous, c'était le théâtre. Tout le monde allait au stade voir l'OM, il n'y avait que l'OM qui existait. Un jour, je me suis retrouvé à Tahiti en vacances avec mon ex-femme Véronica, avec un Tahitien à Bora Bora, loin de tout, loin du football, la semaine de vacances. Et d'un coup, il me fait « Toi, Blondo, toi, bagarreur, toi, Blondo, toi, l'OM. » Et j'ai rigolé parce que je me disais « Mais qu'est-ce que tu connais, toi ?»« Moi, connais l'OM », il me disait. C'était un truc de fou. C'était impressionnant, l'OM, c'était il y a des années de ça, l'OM, c'était quelque chose.
Tu as mis fin à ta carrière en 2005. Raconte-nous un petit peu ce que tu fais depuis.
Alors, j'avais quelques années avant, pour être tranquille, malheureusement, ça ne s'est pas bien passé, puisque chez ma brasserie, il y a eu un incident, elle a brûlé. Mais j'avais mis pas mal d'argent de ma brasserie, les deux garçons, et je faisais l'argent à côté. D'accord. Voilà, donc j'avais ces deux boulots. Donc là, on est en plein procès. ça finira en février 2023. Il y a des images où on voit une personne rentrer, mettre le feu, repartir, mais malheureusement, on n'arrive pas à mettre un visage. C'est chiant pour les assurances, pour le remboursement. Par contre, oui, je continue à être agent parce que c'est quelque chose qui me plaît. Moi, j'aime pas tout ce qui est autour, m'occuper de la paperasse. Moi, ce que j'aime, c'est la liaison entre le club et le joueur. Voilà. Le club a besoin du joueur. Donc, moi, je présente au poste le joueur que je pense est le meilleur pour le club.
Alors, c'est le moment de l'interview un petit peu décalé. Dans le genre, tu préfères à vie avoir des dents en bois ou des jambes en mousse? Alors, je te pose ma première question. Tu préfères qu'on dise de toi que tu es un mauvais perdant ou un bon joueur?
Mauvais perdant. Je suis mauvais perdant. Je n'aime pas perdre. Je suis pas prêt. Alors, la seule chose que je n'aime pas, c'est tricher. C'est-à-dire, si je joue aux cartes, je ne vais pas tricher pour gagner parce que c'est pas gagné. Mais par contre, je suis très mauvais perdant. Donc, je vais jouer. Je ne pourrai pas jouer pour m'amuser. C'est ça qu'à certains jeux, qu'on me dit, oh, Pat, on joue à ce jeu. Non, je ne joue pas. C'est un jeu pour rigoler. Ça, c'est pas les jeux pour rire. Si je joue au boule, par exemple, je ne suis pas une terreur. Ça fait trop longtemps que je ne joue pas. Je joue pour gagner. Sinon, la boule, elle peut partir. Je sais pas où.
Dans ta tronche.
Sur la tête de mec.
Voilà.
Voilà.
Tu préfères passer une soirée à la maison, tranquille, avec des bons petits plats, avec Marco Simone, ou une soirée en boîte de nuit avec tes amis?
Alors, les deux. Maintenant, je suis avec mon âge, je suis plus trop boîte de nuit, puisque les boîtes de nuit aujourd'hui, ça appartient aux jeunes de 18 à 25 ans. Ça m'arrive avec ma femme de sortir et de me dire, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Si on n'est pas deux, trois couples d'amis de même âge de 50 ans, qu'on boit un verre et les femmes s'amusent une demi-heure à danser, après tu rentres, sinon tu n'as plus rien à voir. Alors je préférerais mieux me retrouver avec un ami. Alors Marco Simone, je sais pas si c'est pour chambrer, mais Marco Simone, on se parle depuis quelques temps. Marco Simone est un garçon intelligent. Lui, il a compris, il a dit haut et fort, Patrick Blondeau était un défenseur très très dur. Alors j'ai joué en Italie avec des plus forts, mais j'étais quelqu'un de tellement solide. Marco Simone, un jour, m'a vu torse nu et il s'est mis à rire. Il m'a dit, Pat, je comprends mieux. On ne sait pas avec les maillots. Les maillots sont tellement grands. Mm-hmm. Donc, personne ne peut imaginer comment je suis torse nu. Donc, il disait, c'est tellement dur. Et mon surnom, c'est Tyson. C'était mon surnom de Marco Simone. Donc, rester avec Marco Simone avoir un match, ça ne me dérange pas du tout.
Tu préfères voyager dans le monde entier sans pouvoir revenir à Marseille ou rester à Marseille et ne plus pouvoir en partir?
Non, voyager. Parce que depuis tout jeune, je dis aux miens, la plus belle richesse, c'est les voyages. Dans les pays différents, tu constates les cultures, tu apprends tellement de choses. Parfois, ici, on se plaint en France et ailleurs, c'est tellement encore plus grave ce qui arrive. Il y a même pas à manger. Et alors, dans d'autres endroits que l'on parle jamais, c'est tellement beau. Les gens, ils sont gentils, ils sont serviables, ils sont devant la porte. Tu te rappelles quand nos grands-parents ou nos tatas, on disait ça, ils étaient devant la porte de notre route nationale. Et quand tu te voyais arriver sans ta maman, ils te disaient, reste près de moi, c'était une tata. Et tu restais près d'elle et on attendait que la maman finissait de travailler. Eh bien, il y a des endroits en Italie, dans les petits villages, que c'est comme ça. Voilà. Mm-hmm. Quand tu vois les enfants, ils leur demandent de rester, de ne pas bouger. Et c'est là que tu aperçois que la haine, le mal, il n'est pas de partout. Malheureusement, j'aime Marseille. Mes parents sont toujours à Marseille. Mais moi, je dis que voyager, ça t'ouvre les yeux et tu perçois les choses mieux que d'autres.
Tu préfères qu'on te dise que tu as un sale caractère, mais une belle gueule, ou qu'on te dise que tu es bien brave, mais qu'il n'y a pas que le physique qui compte?
Ah ben tiens, cette question, je la garde pour toi. Je peux répondre parce que tu m'as vu.
Ah ben, t'as une belle gueule. Après, pour le sale caractère, je sais pas trop quand même. Je te connais pas assez.
Alors, je pense pas que j'ai un sale caractère. Je suis quelqu'un de juste, voilà. Par exemple, quand on m'accuse de quelque chose que je n'y suis pour rien, il me vient la haine. Voilà, je ne supporte pas l'injustice. Je ne la supporte pas. J'ai entendu dernièrement deux, trois trucs. Je suis incapable de voler un euro à qui que ce soit. Je ne m'occupe même pas de mes comptes. Donc, je ne peux pas faire du mal à quelqu'un. C'est pas possible. Ma fille, qui a 20 ans, souvent me dit, papa, tu t'intéresses jamais à savoir si j'ai fait un beau contrat, si j'ai gagné. Non, chérie. Moi, l'essentiel, c'est que tu travailles bien et que tu sois heureuse pour plus tard. Tous ces signes que je te dis là, pense pas que j'ai mauvais caractère. Non, un sale caractère. J'ai du caractère. Et tout le monde est témoin. Je suis un des seuls à avoir répondu à tapis en tête à tête, hein, parce que je n'étais pas d'accord avec lui. Pareil avec le prince Albert, j'avais 20 ans, 22 ans, on s'était accroché et je lui ai dit, alors c'était le prince Albert, je lui ai dit pareil, voilà, ça c'est ma façon de faire, qui que ce soit. Pour ça qu'on m'a aussi prêté mes amitiés dans le banditisme, que tu sais, oui, Patrick, il est très proche d'un tel, un tel, parce qu'il parlait comme moi. Oui. Il y a blanc, il y a noir, moi au milieu je ne connais pas. Voilà. Moi les escrocs, les petits trucs d'escroquerie, les saloperies, attaquer les vieilles, je ne sais pas, moi ça, je ne veux pas parler, je ne sais pas faire. Non, je pense que j'ai du caractère. Alors donc, dans ta réponse, qu'est-ce qu'on va garder alors? Que le beau gosse alors?
Eh ben, beau gosse avec du caractère. Hein.
Avec du caractère.
Dernière question, tu préfères enfiler un maillot de l'OM et te balader dans Paris ou enfiler un maillot du PSG et te balader sur le Vieux-Port?
Ah non, non. Ah non, je mets le maillot de l'OM et je promène à Paris. Mais certainement qu'ils vont me sauter à plusieurs dessus, certainement qu'ils vont me taper. Écoute, c'est le risque à prendre, c'est le risque à prendre. Je suis Marseillais, je vais à Paris, je porte le maillot de l'Olympique de Marseille à Paris. Après, il m'arrive ce qui m'arrive.
Merci Patrick, j'ai été ravi.
Eh bien écoute, c'est moi qui te remercie, gros bisous et je te souhaite plein de belles choses dans tes émissions.
Merci à tous d'avoir écouté Mon OM à moi et on se retrouve dès vendredi prochain avec un nouvel invité.
C'est Mon OM à moi sur Radio Star. Radio Star.